L'avez-vous remarqué? Dans le credo, nous ne disons pas seulement que Jésus est mort, puis ressuscité. Nous disons, dans le symbole des apôtres, « Il a été crucifié et mort et a été enseveli. » Et dans le symbole de Nicée-Constantinople, « Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. » Puis, dans les deux formules, « Il est ressuscité le troisième jour. » Entre la mort et la résurrection de Jésus, il y a donc, dans la foi des chrétiens, un moment, un lieu, un passage tout à fait essentiel par l'ensevelissement et la mise au tombeau. Pourquoi cette insistance? Il y a deux lectures possibles. L'une, la plus spontanée, qui relie l'ensevelissement à la mort de Jésus, en voyant sa mise au tombeau comme le prolongement direct de sa crucifixion. Dire « est mort et a été enseveli », ce serait en quelque sorte affirmer deux fois la réalité de la mort du Christ. Ce serait dire qu'il n'est pas seulement réellement mort, en croix, comme un homme ordinaire, mais qu'il a été concrètement mis dans un caveau comme un cadavre. Que le corps de ce condamné à mort a été vu, non seulement de loin et verticalement sur la croix, mais de près, horizontalement, quand on l'a descendu de la croix et couché dans la tombe, les deux lignes, verticales et horizontales, ayant d'ailleurs ensemble la forme de cette croix et délivrant le même message. Rappeler la mise au tombeau, ce serait signifier que la passion du Christ est allée jusqu'au bout, jusqu'à la fin, qu'il a tout donné, tout perdu, jusqu'à n'être plus rien qu'une pauvre dépouille que l'on met en toute hâte dans un trou creusé dans le roc. Mais je voudrais évoquer une autre lecture, plus originale, qui relie davantage l'ensevelissement de Jésus à sa résurrection. L'idée peut vous paraître inattendue, mais l'Évangile nous donne quelques indices qui permettent d'aller dans cette direction. En effet, il est frappant de constater qu'aussitôt après sa mort, qui se produit dans l'abandon complet, dans la honte sociale, dans la haine totale, l'atmosphère change radicalement. Jésus est pris en charge par un homme riche et important, Joseph d'Arimathie, à qui le procurateur Ponce Pilate n'ose pas refuser ce qu'il demande, à savoir de pouvoir prendre le corps de Jésus et en prendre soin. Quel contraste, n'est-ce pas? Voilà que ce corps méprisé de tous devient le centre de toutes les attentions. Une heure avant, il était au poteau, au pilori, moqué par la foule, par les soldats, par les prêtres. Il agonisait entre deux brigands comme un misérable. Et tout à coup, maintenant, silence et respect. Joseph d'Arimathie, puis Nicodème, autre notable juif, entrent en scène. Et à travers les rites funéraires, c'est dans une attitude d'hommage et de vénération que chacun prend place et que se passe la suite du récit. Ce corps sanglant, de sainte femme le recueille avec vénération comme un trésor. Ce corps nu, elle le lave et le parfume comme on le ferait à un nouveau-né, puis l'enveloppe délicatement dans un linceul et le pose sur la pierre du tombeau, non pas comme un déchet qu'on abandonne, mais comme un enfant endormi que l'on dépose dans son berceau. Vous l'avez compris, dans cette perspective, l'ensevelissement de Jésus n'est pas la fin de tout, mais au contraire un commencement. Sa mise au tombeau prépare sa résurrection et d'une certaine façon la préfigure. Car s'il est mort dans la honte et l'horreur, il est enseveli avec déférence et respect. Déshonoré, méprisé sur la croix, il reçoit les honneurs après sa descente de croix. Le voici couché comme un guerrier après la bataille, épuisé, endormi, mais magnifique. On pourrait le prendre pour un vaincu, mais on devine déjà qu'il est vainqueur. Dans la cérémonie que l'on appelle épitaphion, un office célébré le soir du Vendredi Saint, la liturgie byzantine suggère cela de façon très touchante. Le Christ, tel qu'on le vénère alors dans les églises orientales, en parfumant et en fleurissant symboliquement sa dépouille, n'est pas quelqu'un que nous perdons ou qui nous abandonne. Jamais, au contraire, d'une certaine façon, nous n'avons été plus proches de lui. Enseveli, il est caché comme le papillon dans sa chrysalide. Silencieux, il nous rassure en secret. Les yeux clos, il nous parle au cœur. Non, les funérailles du Christ ne sont pas tristes, mais traversées d'une douloureuse joie. L'épitaphione a déjà des accents de résurrection. C'est un crépuscule, mais qui laisse deviner la suite. Il y eut un soir, il y aura un matin. Oui, le temps de l'ensevelissement est un temps de confiance et d'espérance. C'est une nuit d'où jaillira la lumière. Mais regardons aussi l'espace, le décor et le cadre de cette mise au tombeau. C'est un jardin, l'évangile de Jean le dit clairement. Jésus était mort sur le Golgotha, lieu du crâne, colline chauve et déserte, lieu maudit où, d'après la tradition, gisait le squelette d'Adam. Mais le voici enseveli dans un jardin, un paradis, c'est le même mot. Un jardin comme au commencement du monde, où Adam avait été créé comme un enfant béni. Un jardin, lieu de vie, de bonheur, d'harmonie. Le tombeau de Jésus, c'est le berceau d'une nouvelle création. Et dans ce jardin, le Fils de Dieu veut se promener à nouveau, retrouver l'homme et aussi la femme, leur redonner la vie. C'est pour eux qu'il est mort, c'est pour eux qu'il revit au-delà de la mort et pour toujours. Quoi d'étonnant alors si Marie de Magdala prend le Seigneur ressuscité pour un jardinier? Il l'est depuis la création du monde, lui qui a tout fait avec amour, lui qui se penche sur chacun de nous et sur tous les plus éprouvés, comme on prend soin d'une petite plante. De l'intérieur, au secret de notre cœur, il nous relèvera. Il nous montrera sa tendresse, il nous appellera par notre nom, comme Marie de Magdala. Il nous révélera qu'il est vivant, qu'il est le vivant. Une homélie anonyme du XIIIe siècle, que je voudrais citer pour conclure, lui fait dire ces mots. « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Tu as celui que tu cherches, et tu l'ignores? Tu as la vraie joie éternelle, et tu pleures? Tu l'as en toi, celui que tu cherches dehors. Tu te tiens tout en larmes près de la tombe, mais ma tombe, c'est ton cœur. Je n'y suis pas mort, mais j'y repose, vivant, pour l'éternité. Ton âme, c'est mon jardin. Tu avais raison de penser que je suis le jardinier, car je suis le nouvel Adam. Je cultive mon jardin et j'en prends soin. Tes larmes, ton amour, ton désir, tout cela est mon œuvre. Tu me possèdes déjà sans le savoir. »